Coton-Tige FM.
Coton-Tige FM.
Sur Alto. Héloïse, bénévole à Radio Alto, a réalisé une émission avec le docteur Louis Fouché, réanimateur à l'hôpital de Marseille. Ils ont échangé sur son regard sur la crise sanitaire que nous traversons en ce moment.
Je suis aujourd'hui avec le docteur Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Conception de Marseille et initiateur du collectif Réinfo Covid, qui regroupe environ 400 médecins, chercheurs, soignants et citoyens à travers toute la France. Le docteur Fouché a signé entre autres la tribune publiée par Mediapart dénonçant les mesures gouvernementales sanitaires en septembre. Bonjour Louis Fouché.
Bonjour, vous allez bien ?
Oui, bien et vous ?
Oui, ça va bien. Effectivement, oui, je suis le porte-parole du collectif Réinfo Covid. Et on est très nombreux en fait, après actifs vraiment là-dedans. C'est comme dans tous les collectifs, il y en a un petit peu moins. Mais à la newsletter sont abonnés plus de 35 000 personnes. Ouais, ça commence à faire un réseau de gens et toute une communauté derrière qui nous nourrit, qui nous pose des questions, qui à la fois regarde et participe. Et il y a aussi des artistes, il y a aussi des parents, il y a aussi des enseignants, il y a aussi des citoyens qui se posent des questions. Et en fait, dans l'ensemble, c'est plutôt des gens lumineux, joyeux et qui cherchent à faire un monde meilleur. Et donc ça, c'est hyper chouette parce qu'on a l'impression que cette communauté-là, finalement, elle peut relever le pari de se relever du Covid et de proposer autre chose. L'autre chose que je peux vous dire en guise de présentation, c'est que je suis médecin et donc je dois présenter mes conflits d'intérêts, c'est même dans la loi, en fait. Donc j'ai 450 euros de conflit d'intérêts sur Transparence Santé, qui est la base de données qui réunit en gros les rémunérations des industries de santé aux professionnels de santé. Et il faut savoir qu'il peut y avoir d'autres sources de conflits d'intérêts pour les médecins, notamment des intéressements financiers et des participations financières au capital des sociétés ou à leurs produits financiers. Donc vous avez des médecins qui ont des stock options, qui ont des choses comme ça. C'est pas mon cas, je vous rassure, j'ai pas de stock options. Mais en fait, quand vous prenez des leaders d'opinion, souvent ils en ont en fait. Et ça, c'est complètement occulte et difficile à trouver. C'est le travail des journalistes et d'Anticorps, par exemple, d'essayer de trouver ça. Et puis, vous avez des rémunérations qui peuvent ne jamais être prises en compte parce qu'elles sont faites par des filiales de ces multinationales du médicament et de la santé qui ont des filiales hôtelières, des filiales de conseil, des filiales bancaires et qui donc peuvent rémunérer sans que ça n'apparaisse nulle part un certain nombre de scientifiques et de médecins. Donc voilà, moi, j'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire. Et je parle en mon nom propre, pas du tout au nom de mon institution, c'est quelque chose qu'on a mis au clair avec l'institution où je travaille, pour éviter toute confusion et que je puisse avoir un discours libre. Je les en remercie. Je pense que la liberté d'expression est relativement menacée actuellement.
Donc oui, là ça tombe bien puisqu'on est dans l'émission Freedom, l'émission qui se veut au service de nos libertés fondamentales. Alors aujourd'hui dans cette émission justement on veut mettre en lumière l'obligation du port du masque à l'école pour les enfants. Déjà à partir de la rentrée c'était le cas pour les collégiens et les lycéens et maintenant le cas pour les enfants à partir de 6 ans. Sur le site du collectif Réinfo Covid, vous posez la question suivante, de manière large, pas forcément concernant les enfants, mais la question que je vais vous reposer, qui est la décision d'obliger au port du masque en population générale, présentée comme une protection pour tous, est-elle vraiment une décision de santé publique et qu'est-ce qu'elle apporte en termes vraiment de bénéfices ?
Vraiment sur la question en population générale, donc pas tout de suite sur l'enfant.
Tout à fait.
En population générale, je pense qu'on peut essayer d'être nuancé, en fait, et de pas forcément prendre des positions pour ou contre qui sont en fait des positions dogmatiques et qui finissent à la fin où vous vous retrouvez à trouver des arguments pour défendre votre position et pas pour essayer de réfléchir vraiment à une espèce de balance bénéfice-risque de la mesure sanitaire. L'infection à SARS-CoV-2 qui donne la maladie Covid, les mots sont importants, donc c'est une infection avec un virus qui s'appelle SARS-CoV-2 qui donne une maladie qui s'appelle Covid. Elle est transmissible en partie par des aérosols et en partie par des gouttelettes. Qui sont aéroportés et qui viennent effectivement de la sphère oropharyngée et laryngée et qui sortent de votre bouche, quoi, en gros, et de votre nez. Mais pas uniquement. Première chose, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi toute une partie qui est manuportée ou qui est transmise par les surfaces et l'eau. Et ça, finalement, ça date de Semmelweis, hein, pour ceux qui veulent voir, c'est un des pères de la... Et puis il a été honni à son époque, hein, et on lui a dit que c'était ridicule ce qu'il disait. Mais il s'est rendu compte qu'il fallait se laver les mains avant que des obstétriciens aient faire un accouchement à l'époque, les obstétriciens, ils faisaient des dissections dans une salle de Maccabée, puis après ils allaient faire un accouchement. Et bizarrement, les femmes mouraient de fièvre puerpérale. Et Semmelweis, il a juste eu l'idée de se laver les mains entre les deux. Et il s'est rendu compte que d'un coup, les femmes mouraient plus, ou beaucoup moins. Hein, donc ça, c'est l'hygiène vraiment de base. Et dans notre histoire collective d'épidémies de maladies infectieuses, c'est finalement le lavage des mains qui a fait un des plus gros travails d'assainissement de ces infections. Donc là, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que finalement, c'est un peu mis au rancard avec cette histoire de masque, mais se laver les mains, et pas forcément 50 fois par jour, comme on l'entend, hein, mais avant d'aller manger, avant d'avoir un contact avec d'autres, de manière raisonnable. Et pourquoi pas utiliser de l'alcool, le gel hydroalcoolique c'est bien, mais l'alcool pur même en fait, que pourraient vous fournir certains, à 70 degrés, que pourraient fournir certains pharmaciens, serait tout aussi efficace. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'effectivement on pourrait dire le masque permet de diminuer la transmissibilité du virus et de diminuer le fameux R0, qui est pas une très bonne mesure d'ailleurs, il faudrait mieux utiliser RT, mais ça c'est des mathématiques un peu fines, qui diminuerait la vitesse de propagation du virus. Et donc qui diminuerait quelque part la tension sur les réanimations et sur l'hôpital. C'est un objectif discutable en soi. Est-ce qu'il faut absolument diminuer la tension sur les réas et l'hôpital? Ça, c'est une problématique politique et médico-économique, on va dire. Mais c'est pas un bénéfice individuel direct pour les gens. Et quand on dit freiner une épidémie, c'est un peu comme si vous vouliez arrêter la mer avec vos bras, en fait, la marée avec vos bras. De toute manière, cette épidémie se passera, en fait. Et de toute manière, elle traversera les humains. L'ARN du virus est un petit morceau de message, hein, c'est même pas quelque chose de vivant, hein, c'est de l'information. Et c'est de l'information qui vient vous traverser pour que vous vous mettiez au diapason du monde, pour que vous mettiez dans la bonne interaction et le bon thermostat immunitaire de relation au monde. Et donc la question, c'est pas qu'il faut s'en prémunir, au contraire, c'est qu'il faut laisser faire. Hein, c'est le fameux concept d'immunité collective, qui à mon sens est très intéressant. La question, c'est que, en fait, il y a quelques personnes qui, eux, n'arrivent pas à se mettre au diapason immunitaire, n'arrivent pas à faire leur thermostat immunitaire quand ils sont traversés par cette information qu'est le virus. Et ceux-là vont faire le Covid, c'est-à-dire cette maladie qui donne des problèmes vasculaires et respiratoires, de très grande dépendance à l'oxygène, et qui peut vous conduire les patients en réanimation. Donc, le deuxième point que je peux vous dire, c'est que cette maladie-là, un Covid, elle concerne vraiment une très faible minorité de gens. L'immense majorité des gens qui sont sur Terre et qui vont même être positifs à SARS-CoV-2 sur un test PCR, en fait, ne feront pas la maladie à Covid ou en feront une forme extrêmement bénigne. Et c'est vraiment l'immense majorité. C'est plus de 97%, voire 99% des gens même qui ont un test positif. Donc, c'est pareil, là, il y a à faire descendre le niveau de peur collective et à regarder par contre et essayer de protéger ceux qui auraient des formes sévères. Ceux qui auraient des formes sévères, ben on les connaît en fait, ceux qui sont hypertendus, diabétiques, obèses, ceux qui ont des maladies dysimmunitaires, inflammatoires, sous corticothérapie, sous immunosuppresseurs, ceux qui sont âgés, à plus de 80 ans, et encore pas tous les gens âgés, il y a des gens âgés en pleine forme, en fait ils feront des formes bénignes parce qu'ils sont en pleine forme. Donc l'âge, c'est pas un critère que en soi. Et puis par contre, il y a des gens plus jeunes, de 50, 60 ans, qui sont en fait en très mauvaise forme et qui ont plein de comorbidités, c'est-à-dire plein d'autres maladies associées. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut protéger. Ces gens-là, ça va faire quoi? 10, 15% de la population maximum. Mmh. C'est sur cela qu'il faut concentrer ses efforts. Le masque en population générale, il est une imposture quant à la transmissibilité du virus déjà dans les rues. C'est-à-dire que quand vous marchez, quand vous courez dans la rue, que vous êtes loin de tout le monde, ça n'a pas de sens en fait. Aucun sens. Il n'y a même pas de bénéfice à espérer à ce moment-là. Et par contre, il y a des risques. C'est-à-dire vous faire porter un masque dégueulasse que vous avez depuis 3 semaines dans votre poche, que vous avez rangé avec vos courses, etc., dans lequel vous crachouillez depuis quelques heures, c'est pas la bonne façon d'utiliser le masque. Le masque, quand on l'utilise correctement, on le touche à peine, on met au-dessus des oreilles, on serre le nez, point. Et puis ensuite, on le jette au bout de 4 heures. Et on le jette dans une poubelle d'acerie, c'est-à-dire une poubelle qu'on brûle, qu'on incinère, pour justement qu'il n'y ait pas de traces de virus dans l'environnement, puisque je viens de vous dire que l'environnement lui-même était vecteur du virus, par le biais de l'eau. La transmission que vous pourriez avoir, elle se fait pas par les aérosols. Les aérosols, c'est des toutes petites particules de virus qui nagent dans l'air, puis qui vont rester pendant des heures, et qui sont là, et puis au gré du vent, volent par-ci par-là. C'est l'information qui continue à circuler sur Terre du virus, si vous voulez. Et puis la transmission elle-même, comme je vous ai dit, elle se fait plutôt par l'eau, en fait. Comme toutes les épidémies d'ailleurs, hein, si vous y réfléchissez. Et elle se transmet par des grosses gouttelettes de salive dans lesquelles il y a du virus. Ces grosses gouttelettes de salive, elles sont vectorisées parce que vous crachouillez un peu sur quelqu'un, bon, ben voilà, en parlant, et donc elles vont très peu loin, elles vont à 1,50 m maximum, quoi. Donc là, oui, il y a un intérêt à ce qu'on appelle la distanciation physique, et pas du tout une distanciation sociale, hein. J'insiste là-dessus, il ne faut pas distancier socialement les gens, on a besoin les uns des autres, l'humain est profondément un être de relation, un être de lien, un être d'amour, il a besoin d'être avec les autres, en fait. C'est même ce qui le rend humain et vivant. Si vous êtes tout seul, vous déclinez. Et les personnes âgées qui restent toutes seules, elles déclinent et elles meurent. Elles ne meurent pas du Covid, elles meurent de solitude, elles meurent de déclin cognitif, elles meurent de solitude. Donc il n'y a pas de distanciation sociale à faire, il y a une distanciation physique éventuelle. Et donc là, peut-être le masque, effectivement, pourrait être intéressant pour former une espèce de barrière quand vous êtes dans des transports en commun bondés, quand vous êtes à des endroits où vous êtes très proches les uns des autres et vous pouvez pas faire autrement. Les masques ne sont pas tous égaux dans cette histoire, parce qu'il y a des masques qui sont très ajustés, mais le masque chirurgical standard, en gros, il vous protège que dans un seul sens, l'émission, mais pas la réception. Sur l'émission, il protège un peu, mais pas beaucoup. Et ça veut dire que même ce masque-là, le masque de papier, il ne vous protège pas. Les personnes qui seraient avec les comorbidités dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, ne sont pas vraiment protégées par ce masque. Il faudrait qu'elles aient un FFP2, on appelle ça. C'est un masque qui, lui, est beaucoup plus abouti en termes de filtration des gouttelettes et évite de se faire infecter. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est ma première nuance. C'est plutôt qu'un masque général à tout le monde, qui est mis n'importe comment, utilisé n'importe comment, c'est de donner des masques FFP2 aux gens fragiles et leur expliquer comment les utiliser, leur en donner les moyens. Et puis, distancier physiquement, mais pas du tout socialement, dans des circonstances précises. Donc, le masque en population générale, rien que Covid et moi-même, nous sommes absolument opposés, parce qu'on pense que, par ailleurs, les maléfices, les effets néfastes, eux, sont très importants. Ils sont très importants parce que il y a des infections cutanées qui se font sur certains masques. Vous avez des abcès, staphylocoques, des folliculites, des espèces de petits furoncles un peu partout, qui vont se mettre au niveau de la barbe, etc., à force de porter le masque et qu'il soit dégueulasse, etc. Vous allez avoir finalement vos miasmes que normalement vous devez expirer, ils vont rester et vous allez les réinhaler. On n'est pas du tout fait pour ça, en fait. Naturellement, ce qu'on a dans la bouche est tamponné par le pH de la bouche, par les enzymes de la bouche, et on ne passe pas son temps à l'inhaler, au contraire. C'est pas du tout fait pour ça. Donc il y a des effets néfastes là-dessus. Il y a des effets néfastes respiratoires qui sont liés à l'augmentation de la capnie, c'est-à-dire la quantité de CO2 que vous réinhalez. Quand vous respirez dans un masque, c'est un peu comme si vous respiriez sous la couette. Quand vous mettez sous la couette, finalement, au bout de quelques secondes, vous sentez que si vous avez chaud, que votre cœur il bat plus vite et que vous avez une sensation d'oppression, comme si vous essayez de retenir votre respiration dans la piscine pendant un moment. Au bout d'un moment, votre cœur vous dit « ça va pas, il faut que je respire ». Là, c'est pareil, à bas bruit, en continu. Donc, vous imaginez que vous allez passer la journée entière, dans un état de stress. Vous n'aviez pas besoin de ça, hein. Je suis vraiment stressé. Vous avez passé dans un état de stress pour votre corps qui va être extrêmement délétère. On n'est pas fait pour essorer notre surrénal en permanence. Ça nous rend malade, en fait. Le stress, il est fait pour répondre à une situation de fight or flight, quoi, de s'enfuir ou de se battre ou d'aller chasser le mammouth. Mais quand il est là pour rien, en fait, il vous épuise, il détruit vos défenses immunitaires et il fait que vous êtes beaucoup plus sensible aux infections et à tout ce qui passe. Donc c'est probablement une mesure délétère. Ça, c'est du bon sens, hein, ce que je vous dis là. Pareil, en termes d'oxygénation et de concentration, vous diminuez la capacité d'oxygénation. Et puis en termes de concentration, c'est très très clair, hein. Vous n'allez pas réussir à vous concentrer de manière très importante sur ce qu'on est en train de dire. Vous n'allez pas réussir à vous concentrer pour plusieurs raisons. D'une part, parce que vous ne respirez pas bien. D'autre part, parce que le type d'en face a un masque. Et donc, vous ne voyez pas son articulé, vous ne voyez pas ses émotions, vous ne voyez pas ses mimiques. Or, une bonne partie de la relation avec les uns avec les autres passe par des canaux qui sont non-verbaux, qui ne sont pas du domaine des mots. Qui
80%.
Sont, voilà, exactement, ouais. Et donc, si vous ne voyez pas quelqu'un, vous ne communiquez pas. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes plus en train de communiquer. Vous êtes en train d'avoir des bribes d'informations auditives que vous allez voir recomposées. Et vous imaginez que ces bribes d'informations auditives chez les personnes âgées, par exemple, qui sont en déclin auditif, ça ne suffit plus à faire relation. Quand on est quelqu'un qui commence à être sourd, il va s'isoler progressivement, il va plus rien comprendre, et si en plus il y a plus de mimique, plus d'émotions, complètement out, quoi, hein, comme un petit vieux dans un mariage qui vous sourit et qui en plus peut même plus vous sourire gentiment, là il est juste complètement out. Donc finalement il y a des effets toxiques très importants, il y a des effets toxiques sur le nous et sur sociaux, collectifs on va dire, puisque vous allez avoir des gens qui vont avoir peur les uns des autres, c'est-à-dire qui vont structurer l'autre comme potentiellement un ennemi systématique qui risque de leur donner quelque chose. On avait des... C'est pas nouveau, notre société souffre de l'individualisme, souffre du manque d'individuation d'un côté et de l'individualisme juxtaposé de l'autre, et de la difficulté à faire lien, à faire relation et à se mettre en relation de bienveillance les uns avec les autres. Ben là, c'est bon, vous avez un catalyseur très puissant de cette histoire de masque dans la société. Et vous en arrivez à des excès, comme des gens qui arrivent à se battre dans la queue du supermarché pour des histoires de masque parce qu'il n'est pas bien ajusté, ou qui arrivent à se battre pour des histoires de 1m23 qui n'est pas respecté. Bah, d'une part, c'est ridicule, et d'autre part, ça détruit notre capacité à vivre ensemble. Et je crois que ça, c'est extrêmement toxique et que ça doit rentrer dans la balance. Il y a plein d'autres effets, et puis je ne vais peut-être pas tous vous les dire aujourd'hui, mais globalement, la balance des bénéfices et des risques du traitement, si on prend le masque comme un traitement, est très en défaveur des bénéfices et en faveur des risques. Et ça, quand vous êtes médecin, normalement, au bout d'un moment, vous dites, il ne faut pas que je donne ce traitement-là, parce qu'il est trop toxique. L'autre chose, c'est que beaucoup de gens vont avancer l'argument, vont vous dire, finalement, si ça avait dû marcher, le masque, on n'aurait pas eu cette deuxième épidémie. Donc, l'expérience, ce n'est pas la réitération de la même erreur X fois, c'est de prendre les fruits de son erreur. Donc là, les sophistes vont vous répondre, oui, mais c'est parce qu'on ne l'a pas assez bien mis, on aurait dû être encore plus exigeant. En fait, ça, c'est une vision totalitaire, paranoïaque, consiste à dire que l'autre est en faute et qu'il faut le rééduquer. Les Français n'ont pas besoin d'être rééduqués, n'ont pas besoin d'être punis, n'ont pas besoin d'être sous une autorité tutélaire. En fait, au contraire, ils ont besoin d'être responsables et libres, je pense, et en lien les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment une folie que de vouloir imposer quelque chose. Un médecin, il n'impose pas un traitement à son patient. Si le patient n'arrive pas à prendre le traitement ou ne le prend pas bien, ce n'est pas la faute du patient. C'est la faute du traitement et du médecin qui n'ont pas réussi à faire qu'il y ait une adhésion suffisante. Et peut-être parce que les effets secondaires sont trop importants. Et dans ce cas-là, vous abandonnez le traitement. Vous passez à autre chose, vous tentez autre chose. Donc la conclusion de tout ça, pour moi, c'est qu'on peut essayer d'être nuancé et qu'à l'évidence, il faut abandonner l'usage des masques en population générale à l'extérieur, des masques chirurgicaux, j'entends, et qu'en revanche, on peut proposer des voies alternatives pour essayer de diminuer la vitesse d'expansion de l'épidémie, dont je vous ai dit que c'était une mesure en plus qu'elle était discutable. Ça, c'est juste pour pas que l'hôpital soit saturé, mais enfin, à la fin, il va se passer la même chose. Tous ceux qui devaient l'avoir l'auront, mais dans une cinétique temporelle plus lente. Donc, c'est de cibler vos mesures et donc de fournir des FFP2 aux gens qui ont peur, aux gens qui sont malades, avec des comorbidités, et tous ceux qui sont à risque de faire une forme grave de Covid.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis, triste face à face. Poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens.
Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfant? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Pour revenir aux enfants, les enfants, pour moi, c'est pareil, il faut essayer d'être nuancé. Pourquoi ? Parce que vous dites qu'il faut prendre le problème de manière rationnelle, mais le problème n'est pas rationnel. C'est-à-dire qu'il y a toute une part là-dedans qui est du domaine de l'émotion, et qui est du domaine de la peur. Finalement, le dessus de l'iceberg, finalement, le symptôme, c'est l'histoire du masque pour les enfants. Mais qu'en fait, le masque pour les enfants touche à des problématiques qui sont beaucoup plus profondes que ça, autour de l'école, autour du lien des parents aux enfants, autour du poids que fait peser la société sur les enfants, autour de du lien entre les personnes âgées, les enfants et les adultes. Finalement, tout ça est secoué par cette histoire. Et c'est hyper intéressant de tirer un fil pour aller voir toutes ces questions-là. Si on tire le fil de cette problématique des masques et qu'on essaie d'avoir une position nuancée, on pourrait déjà redonner quelques points de repère. Quelques points de repère pour les parents et pour les enseignants. Les points de repère, c'est que les enfants, en fait, ne sont pas malades. Et malgré tout ce qu'on a pu vous dire, non, les enfants sont pas malades. C'est-à-dire pour les patients dont à l'évidence, il était avéré qu'ils avaient des comorbidités extrêmement lourdes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des enfants qui étaient déjà très malades. Donc ça, c'est la première chose, c'est que les enfants eux-mêmes, sont pas malades et ne font pas de forme grave. Mmh. Et ça, il faut que ce soit limpide dans la tête des gens. Parce que si les masques sont faits pour défendre les enfants, déjà c'est faux, c'est juste faux. Ensuite, si la question c'est, les masques pour les enfants sont faits pour éviter que les enfants ne contaminent d'autres enfants qui eux-mêmes contamineraient d'autres parents.
Mmh.
Ça veut dire qu'il faudrait avérer la contamination entre parents et enfants. Alors autant si la contamination est avérée entre parents et enfants, c'est-à-dire que des adultes peuvent contaminer des enfants, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que vous avez cette histoire au contamine qui a été très bien étudiée, d'un enfant qui a eu 179 contacts dans 3 écoles différentes. Vous savez quoi ? Combien il a réussi à contaminer de personnes ?
Dites-moi.
Zéro. Zéro, et zéro même dans sa fratrie, des gens avec qui il vit tous les jours. Donc en fait, l'enfant ne transmet pas le virus. Pareil, l'Institut Pasteur a fait une étude sur la cohorte de Creil dans un foyer scolaire. Et encore une fois, il n'y a eu aucune contamination d'enfant à adulte ou d'enfant à enfant. Les pédiatres de la région parisienne, dont on ne peut pas soupçonner qu'ils soient hors de la narration mainstream, ont suivi 600 enfants. Ils ont mis en évidence qu'il n'y avait pas de contamination et pas de contagiosité. Donc, à la fin, on peut faire dire n'importe quoi à la science, et c'est un peu le problème pour les parents et les enseignants, c'est qu'ils ont l'impression qu'on a cassé leur outil à dire la vérité, ou qu'on a cassé l'outil des médecins à dire la vérité. C'est vrai, on a cassé l'outil scientifique, il est frelaté, il est pourri de conflits d'intérêts, il est de manière interstitielle gangréné. Mais pour autant, les enfants ne sont pas contaminants, les enfants ne sont pas malades. C'est comme ça, en fait. Ça, c'est juste la réalité de ce qu'on constate chaque jour. À l'inverse, comme je vous l'ai dit, les professeurs, eux, peuvent contaminer les enfants. Mmh. On a cette histoire d'un professeur en Israël, jugé super contaminateur, hein, qui a contaminé 170 personnes dans les écoles.
Mmh.
Ça arrive. Les enfants qui seraient éventuellement un tout petit peu malades, ils font des formes bénignes, ils font des formes même plus bénignes que la grippe. L'autre chose, c'est que vous pouvez penser que si les enfants sont malades, toute cette génération d'enfants qui ont été, je vais essayer de mettre les bons mots, ils n'ont pas été malades, comme je vous ai dit, ou alors de manière très bénigne, mais ils ont été traversés par l'information virale, et donc ils ont fait leur thermostat immunitaire. Ils ont fait leur maladie adaptative, si vous voulez, comme ils le font pour à peu près tout ce qui traverse les enfants quand ils sont en bonne santé, ils sont heureux, joyeux, et qu'ils ont le sourire et qu'ils jouent ensemble. C'est-à-dire que les enfants ne font pas de forme grave, quoi. c'est une des belles choses de la pédiatrie finalement, c'est que bon, voilà. Sur les maladies infectieuses en tout cas, les enfants ils s'en sortent plutôt bien. Et ben ces enfants-là vont faire une génération qui sera une barrière immunitaire à des infections plus graves, à ce même SARS-CoV-2 ou à d'autres SARS-CoV. Puisque finalement, bah, c'est eux qui contiendront le virus, qui le tiendront et qui feront qu'il ne se passera rien. Ça, c'est le pari de l'immunité collective, hein. Mais c'est un pari qui est important, parce qu'il est, ouais, voilà, il est en compétition directe avec l'immunité, avec l'idée d'une immunité artificielle et vaccinale. Donc, bah voilà, les enfants, ils n'ont pas de raison d'avoir le masque, ni pour eux, ni pour les autres. Les enfants, ils peuvent, à mon sens, et voilà, je veux pas être taxé de faire prendre des risques aux gens, mais je pense qu'ils doivent même aller voir leurs grands-parents. Et si les grands-parents ont peur, s'ils ont des comorbidités, s'ils sont malades, ils peuvent mettre un FFP2, ils se distancier physiquement de leurs petits-enfants, mais ne surtout pas se distancier socialement, en fait. Les personnes âgées ont besoin des enfants, et les enfants ont besoin des personnes âgées. C'est comme ça qu'une société vit bien. Et se transmet la parole, le savoir, la sagesse et l'insouciance de l'enfance. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne vivent que pour leurs petits-enfants, en fait. Si vous leur coupez ça, ils meurent. Ensuite, il y a une question non rationnelle là-dedans, qui est la soumission à l'autorité et la peur. La soumission à l'autorité et la peur, finalement, il y a un conditionnement dans le corps professoral qui est bâti de manière très pyramidale et qui est fait pour ça. Vous avez beaucoup de gens qui souffrent, qui en souffrent d'ailleurs dans l'enseignement primaire comme dans l'enseignement secondaire, en disant bah, je suis pris dans une espèce de machine folle où le rectorat me dit ce que je dois faire, me laisse assez peu de liberté en fait. Et vous avez beaucoup de professeurs qui finissent par se tirer en fait, par aller ouvrir leur école Montessori, leur école démocratique ou des choses comme ça ailleurs. Et si vous y réfléchissez, ces gens-là d'ailleurs dans les écoles démocratiques, qu'est-ce qu'ils commencent par faire? Ils commencent par réfléchir à la fondation de la règle. Ce qu'on fait dans les écoles démocratiques, c'est qu'il n'y a pas de règle au départ. La règle, elle est fondée avec les enfants, avec les autres enseignants, avec les parents. Et tous ensemble, on décide de... Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde dans les écoles démocratiques, hein. Je vous dis juste, ça devrait nous faire réfléchir. C'est qu'ils sont justement sur ce point clé-là. Quand vous mettez une règle arbitraire, comme porter un masque qui ne sert à rien, qui vous rend malade, parce que c'est pareil, hein, ce dont je vous ai parlé chez l'adulte avec le masque, c'est encore pire chez l'enfant. C'est-à-dire que là, vous imposez le même masque pendant 10 heures d'affilée en classe, vous avez des effets délétères, mais qui sont vraiment très importants. Hein. Et je pense que tous les parents l'ont constaté. Il n'y a même pas besoin d'études là-dessus. Les enfants ont mal au crâne. Il y en a qui tombent dans les pommes. Tous les enfants autour de moi, et puis et tous les témoignages qu'on reçoit à Réinfo Covid, c'est que vous avez des enfants qui font des malaises, qui sont obligés de sortir dehors pour se réaérer, qui n'arrivent pas à se concentrer. On propose des cours d'anglais avec un masque, mais c'est grotesque en fait. Comment vous voulez apprendre à parler anglais ou une langue étrangère si vous ne voyez pas les mimiques et si vous n'associez pas les phonèmes à un articulé? Ça n'a aucun sens en fait. Donc vous êtes sûr et certain que l'apprentissage des langues, et y compris du français, va être complètement compromis. Donc là, vous êtes en train de faire des générations d'idiots et d'enfants malades, quoi. Bon, voilà. Donc, pour moi, c'est un scandale qui touche presque à la perversion, mais là, de la part du gouvernement et de la part des gens qui veulent le faire respecter, à une espèce de perversion paranoïaque, c'est-à-dire l'idée que les autres sont le problème et que vous voulez leur imposer à toute force ce que vous pensez. Je crois que c'est une des clés là-dedans. J'agresse pas les enseignants hein, qui ont peur, etc. Je pense qu'au contraire, je viens de dire qu'ils étaient paranoïaques, donc j'espère que ça sera pas mal pris, ou qu'en tout cas, c'est un comportement paranoïaque. C'est pas pour dire que c'est mal, c'est pour dire peut-être qu'il faut regarder ça en face et se dire qu'il y a vraiment besoin de presque soigner ces personnes, d'avoir une empathie pour elles très importante. Parce que vous avez des enseignants et des directeurs d'établissements qui sont pris entre le marteau et l'enclume, entre le marteau de leur rectorat, le marteau de l'ARS, le marteau de leurs décrets préfectoraux et l'enclume des parents de l'autre et la cisaille des enseignants. Et finalement, les enfants deviennent la portion congrue dans cette histoire, deviennent ceux qui sont mâchés sur l'enclume à coups de marteau et à coups de cisaille. C'est dommage parce qu'en fait, normalement, l'enseignement et la parentalité et la loi sont faits pour défendre les enfants. Et vous avez même cette chose-là qui apparaît dans le droit, qui est l'intérêt supérieur de l'enfant et qui peut donner lieu, quel que soit le motif, à un recours au Conseil d'État. C'est-à-dire c'est dans le bloc constitutionnel quasiment, quoi. Donc l'intérêt supérieur de l'enfant devrait primer sur tout dans toutes ces discussions. Je crois que c'est pas le cas. Et donc remettre l'enfant au cœur de la question scolaire, C'est vraiment important. L'autre chose, c'est que le décret du 28 octobre sur le masque obligatoire à l'école, en fait, établit pas qu'il est obligatoire. Il dit qu'il doit être mis dans la mesure du possible. Donc, en fait, il y a une surinterprétation par beaucoup d'enseignants et beaucoup de directeurs d'établissement ou de parents qui, eux, le rendent obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire. Et si c'est pas possible, parce que tous les enfants tombent comme des mouches, parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, parce qu'en plus ils sont pas malades, mais que vous allez les rendre malades avec le masque, ben en fait il faut arrêter cette directive-là, il faut contrevenir, enfin en tout cas contourner ce décret.
Oui, vous me parliez par exemple d'enfants asthmatiques ou d'enfants en effet qui font déjà des malaises vagaux par ailleurs, etc. Donc pour qui c'est vraiment
ouais, tout à fait, ouais,
on va dire
c'est
en effet
c'est asthmatiques qui dégradent leur fonction respiratoire. Le problème c'est que ce qui arrive aux enfants va mettre en tension les parents, va mettre les enseignants au sein d'un établissement, va mettre les parents en tension entre eux même, et parfois déchirer des couples, où la femme va se rendre compte que peut-être son mari est un lâche, en fait, et ne veut pas défendre ses enfants, préfère se coucher devant l'arbitraire du roi, ou inversement, voilà, j'ai plusieurs exemples en tête. Mais finalement, ces dissensus-là, ils étaient déjà là, et encore une fois, SARS-CoV-2 et le Covid agissent comme un catalyseur de cette pathologie-là. Il y avait déjà un problème dans la relation aux enseignants et aux parents. Il y avait déjà un problème entre les parents d'élèves qui avaient du mal à faire lien sur quel était le projet pédagogique. Je crois qu'il faut se servir du problème comme un prétexte, en fait. Une des pistes de solution, pour moi, c'est de réouvrir le dialogue. Et c'est ce qu'on veut faire avec Réinfo-Covid. C'est pas d'asséner sa vérité à l'autre, parce que vous allez devenir un Khmer blanc d'un côté, qui va contraindre et brimer les élèves, contraindre et brimer les parents d'élèves, contraindre et brimer les enseignants. C'est pas non plus de devenir un dangereux individualiste libertaire qui va être perçu comme un danger pour la société. Non, c'est justement d'en profiter pour essayer de faire société et de se dire mais à quoi on aspire ensemble ? On aspire à se battre pour des histoires de masse pour nos enfants ou on aspire à ce que nos enfants soient bien, à ce que nos personnes âgées soient en sécurité et puis les gens qui sont malades soient en sécurité ? Tiens, et si la stratégie que nous proposait le gouvernement, en fait, était à côté de la plaque pour répondre à cette aspiration profonde-là. Et cette aspiration-là, moi j'ai envie de croire que c'est l'aspiration des parents, des enseignants et des élèves eux-mêmes, hein. C'est que les enfants aillent bien et que cette infection ne fasse pas trop de dommages dans notre société. Et essayons d'en reparler, de remettre sur le métier la stratégie qui est faite pour y arriver. Le masque, c'est qu'une stratégie, rien d'autre en fait. Plein d'autres stratégies potentielles et qui ne sont pas dans le conflit et la guerre. Et peut-être que ces stratégies, elles seront différentes en fonction des écoles. Et c'est pas grave, et c'est tant mieux.
Oui,
peut-être
doser.
Que dans une école, les gens seront tous à fond pour dire « Oh là là, il faut que tous nos enfants jouent plus ensemble, etc. » J'espère que non, moi, pour ma part. Ou diront « Il faut tous que les enfants aient le masque. » J'espère que non, encore une fois, pour ma part. Mais qu'il y aura d'autres écoles où, au contraire, on dira « Non, bah, on les laisse libres complètement. » Et par contre... on va donner des FFP2 à tous les parents, à tous les enseignants qui sont fragiles, et puis à toutes les personnes âgées qu'ils pourraient rencontrer. Mais encore une fois, revenez à la base, hein, les faits au départ, c'est que les enfants ne sont pas contaminants, ne sont pas malades.
Et alors une question qui fait écho à ce dont vous parlez, c'est-à-dire de faire société. Il y a des spots publicitaires du gouvernement qui montrent, en fait, si vous embrassez votre grand-parent, ça sera de votre faute si il va tomber malade et potentiellement mourir. C'est vrai que du coup, en voyant ce spot, j'ai été quand même choquée et interpellée par l'approche communicationnelle du gouvernement envers notamment les parents, les familles et aussi du coup les enfants. Je me demandais ce que vous en pensiez en tant que médecin et puis aussi en tant que père.
Ouais. Donc finalement, vous me dites qu'il y a une narration de la peur et de la culpabilité, comme à un niveau parental et enseignant. Est-ce que ça ferait peser un poids démesuré sur les épaules des enfants? Vous avez remarqué vous aussi. Effectivement, je pense que c'est une des choses sur lesquelles on doit revenir, c'est que cette stratégie qui est utilisée par le gouvernement et les autorités sanitaires qu'elle propose à la population générale, est une stratégie qui appuie en permanence comme moteur d'adhésion sur la peur et la culpabilité. Mais ça, c'est pas une bonne façon d'emmener des gens avec soi. Si c'est parce que les gens ont peur ou parce que les gens se sentent coupables qu'ils restent avec vous et qu'ils font ce que vous leur dites, en fait, c'est vos esclaves. C'est pas des gens avec qui vous êtes en lien. Au contraire, c'est des gens que vous êtes en train de traumatiser et de forcer quelque part. Et donc, c'est un modèle relationnel qui est le modèle de la perversion, en fait, et qui est celui de la victime, du bourreau et du sauveur. Ce qu'on appelle la triade de Cartman en psychologie. C'est-à-dire que les gens vont en permanence osciller entre ces trois postures. c'est-à-dire être une victime, être un bourreau ou être un sauveur. Et celui d'en face va être le bourreau, vous allez être la victime. Et puis la minute d'après, celui qui était votre bourreau va vous dire « Non, ben voilà, j'étais bon. » Et puis va devenir le sauveur, et vous allez rester une victime, etc. Tant qu'on reste dans ce triangle de Cartman, en fait, on n'établit pas une relation vraie ni avec soi-même ni avec les autres. Et on n'acquiert pas un niveau d'individuation qui permette la responsabilité. Parce que la responsabilité est reportée sur l'autre. Le bourreau va dire que c'est la faute de la victime si elle se laisse faire. La victime va dire que c'est la faute du bourreau si elle se fait taper dessus. Et le sauveur va arriver pour tout résoudre. Et en fait, le bourreau et la victime n'auront jamais rien résolu par eux-mêmes. Et donc, là, je pense que les auditeurs peuvent s'intéresser à ce triangle de Cartman parce qu'il peut peut-être donner des solutions pour essayer d'en sortir et justement de ne pas faire ça. Donc oui, je pense que la narration de la peur et de la culpabilité est quelque chose d'extrêmement toxique et d'extrêmement toxique au long cours, hein, parce qu'il conditionne de la relation pathologique en fait entre les enfants et les adultes, entre les adultes entre eux, entre les enfants entre eux, et qui il aboutit à une société complètement toxique, alors qu'en fait c'est le mandat de l'école est l'exact inverse. Le mandat de l'école est de faire que les enfants fassent société de manière responsable et intelligente, c'est-à-dire qu'on laisse à la fois émerger l'individu, l'étincelle individuelle qui est nécessaire, verticale, et puis la raison d'être collective, horizontale, qui permet de faire sens. C'est Jürgen Habermas qui en parle dans un livre qui s'appelle « L'éthique de la discussion ». Jürgen Habermas, c'est un philosophe qui fait partie de l'école de Francfort, et qui dit « L'individu a besoin de la société pour s'individuer, et la société a besoin des individus pour qu'elle survive et qu'elle puisse être une société ». Ben, cette double tension-là en permanence entre l'individu et la société, je pense qu'il y a besoin d'y réfléchir ici. Et je pense que c'est une des clés aussi. C'est-à-dire que les Khmers blancs, ceux qui vont imposer quelque chose par la peur et la culpabilité, cherchent à faire société par ce biais. Sauf qu'ils se trompent. Encore une fois, leur stratégie est mauvaise. Ils sont en train de désagréger la société, au contraire. Ils sont en train de diviser, de détruire. L'effet toxique sur les enfants, ben, il n'est pas mesurable pour le moment dans la pérennité. Mais l'effet immédiat, c'est un niveau d'anxiété, un niveau de stress, un niveau d'incompréhension qui est bien au-dessus de la normale, et ça les pédiatres, les pédopsychiatres peuvent en témoigner, et moi en tant que père, je peux vous en témoigner. Et la réponse sensée de la part de parents sur le méta-besoin de protection qu'a l'enfant, le méta-besoin de l'enfant, tous les pédiatres le disent, c'est la protection, c'est la sécurité. Et ben, on les met dans une insécurité permanente, chose d'instable, où la règle est arbitraire, du jour au lendemain, il faut avoir un masque, du jour au lendemain, il y a des cerceaux, du jour au lendemain, il y a des barrières entre les classes. Du jour au lendemain, on mange pendant 15 minutes de manière échelonnée entre les différentes classes de l'école, à la cantine. Enfin voilà, tout ça est arbitraire. Une règle arbitraire ne structure jamais un nous. Au contraire, elle le détruit. Elle cherche à le soumettre par la brutalité. Ce qu'on appelle un déferlement totalitaire, en fait. On en parle, hein, dans le collectif. Ce déferlement totalitaire, il ne peut avoir qu'un temps. Hein, parce que ce sont par définition des structures politiques qui sont instables. Et donc, ça va s'effondrer. Et le problème, c'est que tous les gens qui auront suivi cette narration-là seront emportés comme des fétitudes de paille dans le déferlement. Donc là, on a vraiment besoin de se regrouper les uns avec les autres. Et je pense que les parents qui sont un tout petit peu éveillés ou éclairés à cette question-là, peut-être se sentent seuls pour le moment, ont l'impression d'être face à un mur de verre, de ne pas pouvoir changer quoi que ce soit à ce qui se passe dans les écoles ou à la folie de leur directeur qui met des punitions aux enfants, etc. À partir du moment où on commençait à se mettre en lien, à souffler sur les braises de ceux qui sont dispersés mais qui n'en pensent pas moins, je pense que la plupart des parents seront surpris de ceux qui n'en pensent pas moins malgré les masques, mais qui sont quand même derrière leurs masques parce qu'ils veulent pas d'emmerde, et que vous arriverez à être, je parle à ces parents-là cette fois-ci, je pense que vous arriverez à être au moins 10 ou 15% dans une école, dans la moindre école en fait, et que ces 10 à 15%-là déterminés suffisent à renverser complètement une situation. Mmh. Sauf qu'à un moment, il faut assumer la responsabilité. À un moment, il faut être courageux. C'est-à-dire, il faut oser l'ouvrir. Et oser l'ouvrir, ça veut dire de manière intelligente. Si vous agressez quelqu'un en face de vous, un professeur, un instituteur ou un parent d'élève qui a peur, ben c'est comme si vous agressiez une bête blessée qui a peur, c'est-à-dire qu'elle va vous attaquer. Elle va même plus chercher à fuir, elle va vous attaquer. Et si en plus elle a un sentiment de supériorité, c'est-à-dire qu'elle est en meute, elle va juste essayer de vous mettre en pièces. Il ne faut pas s'attaquer à la meute, il faut s'attaquer à une personne, et il faut s'attaquer avec douceur, avec empathie, avec bienveillance. Et ça, c'est-à-dire, il ne faut même pas s'attaquer, en fait. Il faut ouvrir l'espace du dialogue. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent venir germer du dialogue. Mais pour ça, il faut tenir le rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a besoin, à un moment, où vous ne vous couchiez pas, au moindre argument. Parce que si vous vous couchez, c'est-à-dire vous dites, ouais, c'est vrai, t'as raison, peut-être sur le masque, etc., ou que chacun se brandit à la figure des arguments scientifiques ou pseudo-scientifiques d'une étude versus l'autre, etc. J'ai entendu à la radio aussi, j'ai entendu à la télé ça. En fait, ça va pas marcher. Il va falloir que le dialogue il s'installe sur les émotions d'abord et qu'il s'installe dans le cœur, plus profond dans le ventre, sur les besoins fondamentaux qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans notre école, en fait? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants et nos instituteurs? Si vous partez sur essayer de se brandir des faits à la figure autour de la contamination des enfants, ce que j'ai commencé au début de cet entretien, hein, mais je pense que ce que j'ai dit au début de cet entretien, ça va convaincre, ça va jamais convaincre quelqu'un qui a peur. Mm-hmm. Ça va pas marcher. Ça va rassurer des gens qui doutaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qui vont se dire « Ah, tiens, je suis pas fou, en fait. Il y a quelque chose qui va pas pour les enfants. » Ça va peut-être lui servir quelques armes pour ouvrir une discussion. Mais vous ouvrirez beaucoup mieux une discussion les uns avec les autres si vous commencez par dire « Je me fais du souci, en fait, pour mes enfants. Et je me fais du souci pour ce qui se passe dans notre école. » Parce que ça, c'est entendable. Et vous forcez rien. Vous parlez au jeu. Vous parlez pas « Tu dois penser ça. » Ou « Tu es bête de penser ça. » Vous parlez au jeu. Ça permet d'ouvrir un dialogue, que chacun parle sur son jeu.
C'est ce que vous conseilleriez, par exemple. En effet, il y a eu beaucoup de... Nous, on a aussi récolté beaucoup de témoignages de mamans très soucieuses. D'abord, l'impact a été émotionnel hein, lors de l'apprentissage de cette nouvelle règle pour leur enfant, comme très instinctif, quoi. Elles sentaient que là, il y avait quelque chose qui les inquiétait profondément. Mais qui, en effet, après, ont eu des difficultés, on va dire, à tenir, on va dire, face soit à d'autres parents d'élèves, justement, qui n'avaient pas le même point de vue, ou même à leur professeur, avec qui, en effet, c'est plus ou moins facile. Il y a des écoles où ça va être... Il y a un dialogue qui est déjà là, en fait, une communication qui est déjà là. Donc, c'est quand même déjà un peu plus simple. Et encore, ça ne veut pas dire que ça leur permet d'aller au bout de la protection de leurs enfants et de leurs idées. Mais il y a des écoles où, en effet, un peu comme vous évoquiez tout à l'heure, c'est presque des cas psychologiques, quoi. C'est-à-dire, on a des professeurs en burn-out, en souffrance, en détresse, quoi, presque psychologique, et qui n'arrivent plus à... Enfin, qui se sentent en tension permanente ou attaqués en permanence par les parents, quel que soit le contexte. Et du coup, qui n'arrivent plus à mettre, en effet, le bien-être des enfants en priorité.
Ouais, peut-être donner quelques clés plus sur le registre de la psychologie, en fait, et de la relation. Hein. On n'est plus du tout sur le Covid. Et donc, on rentre un peu dans la profondeur et ça devient intéressant parce que le Covid, en fait, c'est un prétexte. C'est un prétexte à sortir le meilleur de vous-même ou le pire. Et je crois qu'il est souhaitable qu'on sorte le meilleur de nous-mêmes. Et ça veut dire quoi, ce que je viens de vous dire? Ça veut dire, avant d'aller essayer de travailler sur l'autre, déjà travailler sur soi. Et travailler sur soi, ça veut dire accepter l'émotion qu'on est en train de traverser. Se dire, mais là, je suis en colère ou j'ai peur. J'ai peur que l'État me force à mettre mon enfant comme ci, comme ça, qu'il me le vole, que je sois en danger, etc. Donc, accepter cette émotion-là et la laisser passer au travers de soi. Parce que quand elle sera passée, il n'y aura plus rien que vous. L'émotion, elle sera passée. Mais l'émotion, elle vous dit quelque chose. C'est un panneau indicateur qui vous dit, il y a un besoin fondamental en moi qui est bafoué. Et ce besoin fondamental, pour tous les parents, il est clair, c'est de prendre soin et de mettre en sécurité leurs enfants. Parce que c'est dans la nature du papa et de la maman que les petits poussins, il faut en prendre soin. C'est juste un besoin hyper profond qui est au fin fond des tripes, quoi. Et celui-là, il est complètement légitime. Et une fois que vous avez mis le doigt sur ce truc-là, sur le fait qu'il faut le ressentir à l'intérieur, faut pas juste le penser dans la tête, le ressentir à l'intérieur, c'est ma mission de vie, et je suis là sur Terre que pour ça, probablement, c'est de protéger mes enfants. C'est de leur donner de la sécurité. Tout le reste, c'est accessoire. Et dès qu'ils seront grands, dès qu'ils commenceront à être autonomes, cette mission-là, elle sera tombée, en fait, ça y est, j'aurai plus qu'à apprendre à mourir. Et ça y est, j'aurai fait mon taf sur Terre. Si vous êtes bien au clair avec ce besoin-là, déjà, vous avez travaillé dessus, vous allez transformer la colère, vous allez transformer l'émotion, vous allez transformer la peur, vous allez la transformer en autre chose. Mais cette autre chose, c'est quelque chose d'hyper précieux, c'est le courage. C'est le courage d'aller essayer de satisfaire pour de bon le besoin de fond qui est plus important que tout le reste, qui va être plus important pour vous que protéger les petits vieux, plus important que l'économie, plus important que les directives gouvernementales. Il y a un truc animal. Et ce truc animal, c'est de protéger votre enfant, et ben ça... Prenez la force là-dedans d'avoir du courage. Et une force tranquille, une force qui n'est pas en colère, une force qui permet juste de se structurer dans le courage et d'aller dire non, en fait. Juste non. Et ce non, il a une puissance de déflagration qui est incommensurablement plus forte que la colère que vous pourriez rétorquer à quelqu'un en lui disant « tu dois penser ci, tu dois penser ça ». Une fois que vous êtes bien structuré sur votre courage, il n'y a plus rien qui vous arrête, vous êtes invincible. Vous êtes entouré d'une aura de puissance que personne ne peut arrêter. Vous êtes d'autant plus entouré de cette aura de puissance, elle est bienveillante. Elle cherche vraiment le bien pour votre enfant, mais y compris pour l'autre. Dit autrement, et ça c'est Thomas d'Ansbourg qui le dit comme ça, quelqu'un qui fait de la communication non-violente, il dit « vous ne pouvez pas vouloir la paix là-devant si vous ne l'avez pas là-dedans ». Et donc, commencez par là-dedans, à l'intérieur de vous. Faites la paix avec vous-même, réconciliez-vous avec votre besoin fondamental en vous disant « il est légitime et je peux essayer d'aller le satisfaire, et je vais même le satisfaire ». Armez-vous de courage, et une fois que vous en êtes là, plutôt que d'aller au clash avec des gens qui ne pensent pas comme vous, utilisez ce courage pour réunir d'autres gens qui vous donnent du courage. Parce que le courage à plusieurs et devient beaucoup plus important. La meute, la meute des loups, elle a peur de rien. La meute des jeunes dans la rue, elle a peur de rien. Ils ont des yeux dans le dos, il n'y a pas d'ennemis, il y en a un qui est tout seul sur le côté, il va se faire rattraper par la meute pour être protégé. Et donc si vous êtes nombreux, il n'y a même pas besoin d'être si nombreux que ça. Déjà vous allez commencer à être à 4 ou 5 parents d'élèves dans une école. Mais déjà, vous allez voir que vous avez une puissance incommensurable, en fait, et que vous avez peur de rien. Et qu'en fait, tous les autres, ils sont acculés, et c'est pour ça qu'ils sont si violents, si brutaux. C'est parce qu'en fait, ils sont seuls et qu'ils ont peur. Donc, ça, c'est mon conseil aux gens qui se sentent seuls et qui ne savent pas comment faire ou qui sont en colère. C'est déjà là de se poser un petit coup avec eux-mêmes, de laisser passer tout ça sur eux, de renouer avec ce qu'ils ont vraiment besoin de faire. Et peut-être que les stratégies seront différentes en fonction des gens. Il y a des gens qui vont retirer leur enfant de leur école, parce qu'en fait, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de dialogue possible, par exemple. Ils sont face à des tarés, en face, quoi, à des gens qui ont perdu la mesure et qui défendent une idéologie qui ne protège pas les enfants, quoi, qui, au contraire, est une espèce de pédocriminalité organisée, perverse, par la loi et par les règles. Donc ça, si vous rendez compte de ça dans votre établissement, que le directeur est dans cette espèce d'idéologie-là, je pense qu'il faut pas essayer de faire quoi que ce soit. Enfin, vous pouvez essayer de retourner des parents, etc. Mais il faut partir. Il faut juste partir.
Il y a des gens, en effet, là, il y a des parents, ouais, en effet, qui ont retiré leur enfant de l'école.
Exactement. Ce qui est hyper dur aussi, puisque l'État vous a dit non, vous n'avez pas le droit. C'est vraiment dégueulasse. Hein. On vous bloque les portes. On vous met dans une situation de stress. On vous bloque toute porte de sortie. Il n'y a que les pervers, encore une fois, qui font ça. Hein. Et ça, c'est mon deuxième conseil. C'est quand vous allez aborder des gens en face de vous, donnez-leur des portes de sortie. Plutôt que de vouloir leur imposer une façon de faire, dites-leur ce que vous vous ressentez, comment vous voyez les choses, et ouvrez des possibles. Mmh. Ouvrez des possibles sur ce que je vous ai dit. Peut-être que les instituteurs qui sont un peu obèses ou qui ont des problèmes, parce qu'il y en a qui sont malades, on peut leur offrir, se cotiser avec l'association de parents d'élèves, pour leur offrir des FFP2 qui changent toutes les deux heures. Que là, vous allez voir que d'un coup, en fait, toute l'attention va retomber. Mmh. Que ça y est, en fait, c'était ça le besoin fondamental de cet instituteur. C'était pas les enfants et tout, c'était déjà lui-même d'être en sécurité, parce qu'il avait peur pour sa propre peau. Mm-hmm. Et ça, c'est légitime. Il faut l'entendre aussi. Il peut y avoir des gens qui ont peur pour leur propre peau. Mm-hmm. Et au départ, la première chose avant d'essayer de prendre soin des autres, c'est de prendre soin de soi. Donc, vous arriverez, à mon sens, très probablement à des résultats inattendus en laissant une porte de sortie. Alors que si vous laissez monter en violence, vous allez avoir des gens en face de vous qui auront du mal à se dédire de ce qu'ils ont dit ou de ce qu'ils ont fait, qui vont vous répondre par des agressions et ils préféreront créer un mensonge où vous êtes leur ennemi pour pouvoir justifier leur attitude que d'essayer d'arriver à la paix. Mm-hmm. Donc, voilà.
Et pour cela, votre collectif, on peut relayer du coup justement l'adresse de votre site web et de votre collectif parce que c'est aussi une plateforme de mise en relation.
Tout à fait,
c'est vrai qu'elle a regroupé au début, c'était des soignants, des scientifiques et des soignants. Maintenant, c'est beaucoup plus large. Comme vous le disiez, il y a vraiment des entrepreneurs, des artistes, des parents, etc. etc. Enfin bref, tout
ouais, de ouais, la... Ouais. Et il y a même des gens qui, dans certaines communes, organisent le fait qu'ils sont des parents dans des écoles différentes. En fait, ils vont faire du tractage et de la discussion avec les parents d'élèves à la sortie du collège ou du lycée à plusieurs écoles différentes. Ce qui fait qu'en termes de nombre, ça inverse les choses à la sortie de l'école. D'un coup, il n'y a pas, vous n'êtes pas un face à 25 parents masqués, vous êtes 50 face à 25 parents masqués. Mmh. Et là, c'est plus la même histoire. Hein. Je vous assure qu'en termes de tonalité émotionnelle, vous vous sentez en sécurité. Et les gens en face, ils se sentent, ils se disent tiens, en fait, c'est pas un fou furieux contre l'État, c'est plein de gens en fait. Et ils sont puissants, ils sont forts. Et c'est autre chose que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui nous écrivent avec une idée un peu messianique, avec l'idée qu'il faudrait qu'il y ait une personne qui émerge et qui fasse se retourner la situation. Ben, je crois que c'est complètement faux. Je crois que vous êtes ce que vous attendiez. C'est pas quelqu'un d'autre qui va résoudre le problème pour vous. Et finalement, ça, c'est hyper sain. C'est-à-dire que dans toute notre société, elle souffrait de ça, d'une déresponsabilisation. Déresponsabilisation sur les problématiques environnementales, sur votre consommation de plastique, sur l'agro-industrie, sur le niveau de violence collective, etc. Ben justement, là, non. En fait, c'est votre problème. On est venu vous chercher jusqu'à chez vous, jusque dans votre chair, jusqu'à chez vos enfants, quoi. Si vous réagissez pas pour ça, ben en fait, c'est que vous serez pas digne de continuer à vivre là-dedans, quoi. Ou alors vous serez un esclave. Par contre, si vous commencez à réagir, d'un coup, vous allez toucher du doigt à quel point vous êtes un héros, une personne merveilleuse, que les gens autour de vous sont aussi merveilleux, admirables, que les gens qui sont en face de vous ont aussi leur beauté, ceux qui défendent la position inverse, et une beauté fragile, quelque chose comme qui nécessite presque d'être soigné, en fait, et que voilà. Donc on est sur un moment clé de l'humanité. Cette crise permet justement que vous commenciez à vous individuer. Allez-y, faites tout. Rendez-vous disponible à ça. Vous serez récompensé au centuple. C'est du domaine du don. Je vous le dis moi, je fais des réunions Zoom des fois jusqu'à 1h du mat, 3h du matin, avec les gens du collectif et tout ça. J'y vais en traînant les pieds. Parfois, je dis à ma femme, encore une réunion. Et en fait, je sors de là, j'ai une banane et une énergie mais au centuple. Je sais pas si vous le sentez, mais dans mon cœur et dans ce que j'essaye de porter moi et de ce que tous on essaye de porter, il y a l'idée de la joie et l'idée de l'énergie lumineuse, en fait. Enfin voilà, on se force pas, hein. On essaye de porter pour de bon, quoi, d'être bienveillant, d'être dans l'amour et d'essayer d'aller vers une société plus juste, plus proportionnée dans ses mesures sanitaires, qui fait plus attention les uns aux autres, quoi. Faire attention aux uns les uns aux autres, c'est pas avoir peur les uns des autres, c'est prendre soin les uns des autres.
Oui,
et
tout à fait.
Donc voilà, je à tous ceux qui ont peur, à tous ceux qui sont en colère, peur dans tous les sens, hein, je veux dire, peur y compris de faire face au système. Bah, c'est le moment. Réveillez-vous, ouvrez les yeux, faites la paix avec vous-même, devenez un héros et commencez à aller parler. Il s'agit juste de répondre à l'appel.
Docteur Fouché, quoi dire de mieux? Merci.
Ah, c'est du direct, ils vont relancer la musique.
Puisque c'est vrai qu'ils nous montraient des 6 ans les rêves sur les mêmes, alors il faudra. C'est un matin pas qui nous inspire. Juste un regard, celui de ma mère, bouleversé, un tissu me fait. Puisqu'on nous dit qu'on est en soldats du scolaire, alors on voudrait leur dire, on part au combat, on va faire les classes des sans sourire. Un peu hagard, mais solidaire, le contingent des petits.
C'est l'accès au savoir qui inspire. pour sauver grand-mère, que mon visage est recouvert.
Coton-Tige FM.
Coton-Tige FM.
Sur Alto.